Bonjour, Marco, compte à rebours. C'est reparti pour Compte à rebours. Toutes les semaines, des histoires, des légendes, des contes venus du monde entier. Et aujourd'hui, on va partir en Afrique. Pourquoi pas, ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. On a fait des tours du côté de l'Asie, on est allé jusqu'en Corée, on est allé au Tibet, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps. On a fait un tour aussi par Saint-Antonin, tiens, avec l'histoire de la Dame Blanche. Mais là, on va partir en Afrique. Mais alors, vous me direz, l'Afrique, c'est immense, c'est un continent. Ce sont des peuples. Alors, une question. Connaissez-vous les Peuls? Voilà, peut-être vous avez reconnu le son de cette flûte. C'est une flûte Peul, qui vient donc de ce peuple qu'on appelle les Peul. Et non, c'est pas Stanislas qui jouait. Il y avait quelqu'un ici à la radio, que j'ai travaillé à la radio. Je ne sais pas s'il y travaille encore, Stanislas, qui jouait de la flûte Peul, qui en joue toujours très bien d'ailleurs. C'est une flûte à trois trous, un peu particulière à jouer. Mais les Peul, qui sont-ils? Sans doute vous en avez entendu parler. En Afrique, au sud du Sahara, il y a toute une zone de savane qu'on appelle le Sahel. Et dans cette savane, il y a des troupeaux immenses, il y a des pasteurs. Et la plupart de ces pasteurs sont des peuls. Bon, aujourd'hui, les temps ont changé. On trouve sûrement des peuls mécaniciens, musiciens. On en trouve boulangers ou que sais-je. Mais c'est quand même un peuple qui a une longue tradition, puisque ce sont les pasteurs du Sahel. C'est assez étrangement, ils ont des troupeaux immenses, leur richesse se mesure à ces troupeaux, mais ils ne mangent pas de viande, ils ne mangent même surtout pas de viande de bœuf. Par contre, ils boivent le lait, ils ont un régime, on pourrait dire, lacto-végétarien. Et les Peuls, bien sûr, ont des histoires en pagaille, des contes. Et d'ailleurs, ces contes ont été, on va dire, mis à la connaissance du monde entier, pour ainsi dire, grâce à Amadou Ampateba, que vous devez connaître, puisque je crois qu'il a été prix Nobel, hein, sans doute, de littérature. C'est un grand spécialiste de la littérature orale africaine. Il est Peul lui-même. Son grand-père était un grand conteur qui connaissait tous les récits initiatiques. Et Dieu sait s'il y en a, notamment la fameuse histoire de Djedo Dewa, une terrible sorcière qui est la mère de toutes les calamités et qui va, au fil d'une aventure interminable, à la fois féerique, fantastique, illustrer la lutte éternelle, on peut dire, entre le bien et le mal. Un autre conte assez connu aussi que Amadou Ampateba a popularisé, c'est Kaidara, le voyage initiatique de trois compagnons à travers un pays souterrain parsemé de rencontres symboliques et mystérieuses vers la demeure du lointain et pourtant proche Kaidara, dieu de l'or et de la connaissance. Alors j'avais bien envie de vous conter un de ces contes, Djedo Dewa ou Kaidara, mais ce sont des contes d'une longueur assez exceptionnelle, c'est-à-dire il me faudrait entre 20 et 30 émissions pour vous raconter ces histoires. Je me suis dit que peut-être comme épisode, enfin succession d'épisodes, ça ferait trop long. Alors j'ai essayé de choisir des choses peut-être un peu plus simples. Tiens, beaucoup plus simples et beaucoup plus courts, il y a déjà les proverbes Peul. En voici trois, mais ce n'est pas moi qui vais les dire, c'est Mohamed Saïdou qui les dit en Peul et qui les traduit.
Toi, wolwa di goddo sali nanan goma, sirwa nanan mo. Ndego to ananani mo afama ko wadi kanko salino nanan goma Si tu parles à quelqu'un et qu'il ne t'écoute pas, tais-toi, écoute-le. Peut-être en l'écoutant, tu saurais pourquoi lui, il ne t'écoutait pas. Duniyaru rumodu gertogal, handendu yerande, jangondu bue. La vie est comparée exactement au derrière d'une poule. Aujourd'hui, ce derrière te pond l'œuf, demain, c'est ce même derrière qui te pond la merde. To be pindini ma fajira be maskala wo num ko ngada noda hidde ko danoda. Si on te réveille le matin avec une claque, pense-y un peu à ce que tu faisais avant de t'endormir.
Voilà quelques proverbes, Paul. Il y en a des quantités, comme dans toutes les traditions. Alors, je m'étais dit, je pourrais quand même faire un tout petit bout de Kaidara pour donner une idée de l'ambiance, le tout début de cette histoire qui commence par cette célèbre introduction, ce préambule traditionnel qui est très connu, qui commence comme ça. Conte, conte, a conte, es-tu véridique? Pour les bambins qui s'ébattent au clair de lune, mon conte est une histoire fantastique. Pour les fileuses de coton pendant les longues nuits de la saison froide, mon récit est un passe-temps délectable. Pour les mentons velus et les talons rugueux, c'est une véritable révélation. Je suis à la fois futile, utile et instructeur. Déroule-le donc pour nous. C'était au mystérieux pays du surnaturel Kaidara, pays que la mémoire humaine ne peut situer exactement ni dans le temps ni dans l'espace. Mana, qui le premier narra cette aventure, la plaça quelques hivernages après la période qui vit durcir les montagnes. C'était l'époque où les génies finissaient de creuser le lit des rivières. Amadi sortit de chez lui à l'heure où l'horizon était illuminé par la douce lumière d'or qui incendie le lever et le coucher du grand monarque borgne. Il marcha machinalement jusqu'à un grand carrefour, il s'y arrêta. Il fut si ébloui qu'il n'entendit point les pas de Antudo, lequel venait de déboucher par l'une des trois routes aboutissant au carrefour. À son tour, Antudo, séduit par la beauté de l'aurore et la féerie des nuages multicolores, semblables à des serviteurs royaux parés pour le lever de leur roi, en perdit les yeux et les oreilles captivés qu'il était par ce spectacle grandiose. Il demeurait là, ensorcelé, et ne s'aperçut point qu'un homme l'avait devancé. Quelques instants après, Damburu apparut à l'orée du carrefour. Il vit les deux hommes qui l'avaient précédé sur la place. Chacun d'eux ignorait la présence de l'autre tant ils étaient fascinés. Il s'écria « Ohé, fils de ma propre mère, inclinez-vous bien bas car la svelte servante du grand monarque borgne va soulever les draperies de fumée qui interceptaient votre vue et vous masquer le lever du roi aux mille bras lumineux. » L'enchantement fut rompu. Les deux hommes sortirent de leur extase. Chacun se retourna pour voir celui qui parlait et tous trois se trouvèrent disposés en triangle, comme les trois pierres d'un foyer. Une voix très bruyante fendit l'espace. Elle dit « Oh, homme ébloui par la lumière, allez dans le bois sacré du premier village. » Et la suite, vous pouvez l'imaginer, c'est la quête de ces trois personnages qui vont partir en écoutant cette voix qui va les mener dans un autre monde. Mais c'est très long, oui, très long. Alors j'ai choisi des contes aujourd'hui plus populaires. Peul, certes, et aussi quelques contes des peuples alentours, accompagnés de flûtes Peul, bien sûr, et d'un musicien Peul, Baba Maal. Donc des histoires simples, des histoires d'animaux, mais aussi d'hommes et de femmes. Et la première histoire, je l'aime bien parce qu'elle répond à une grande question que beaucoup de gens se sont posées. Pourquoi y a-t-il autant d'idiots dans le monde?
Miriam.
Autrefois, il y avait beaucoup moins d'idiots qu'aujourd'hui. Quand il s'en trouvait un quelque part, aussitôt on le chassait du village. Aujourd'hui, par contre, il faudrait chasser la moitié du village et encore. Ça ne suffirait pas. Mais comment se fait-il qu'il y en ait tant? Voici comment les choses se passèrent. Un jour, trois idiots qu'on avait chassés pour leurs bêtises se retrouvèrent à une croisée de chemin et se dirent « Peut-être arriverons-nous à quelque chose d'utile en réunissant l'intelligence de trois têtes stupides. » Et ils poursuivirent leur chemin ensemble. Peu de temps après, ils arrivèrent devant une cabane d'où sortit un vieil homme. « Où allez-vous ? » demanda celui-ci. Les idiots haussèrent les épaules. « Là où nous portent nos jambes, on nous a chassés de chez nous pour notre bêtise. » Le vieux répliqua, « Alors entrez, je vais vous mettre à l'épreuve. » Il avait trois filles, toutes aussi bêtes, et se montrait donc compréhensif. Le lendemain, il demanda au premier idiot, « Va à la pêche. » Et au deuxième, « Va dans les fourrés et tresse des cordes. » Et puis au troisième, « Toi, apporte-moi des noix de coco. » Les idiots prirent un carrelet, une hache et un bâton et se mirent en route. Le premier s'arrêta au bord d'une mare et se mit à pêcher. Quand son carrelet fut plein, il eut tout d'un coup soif. Et il rejeta tout le poisson dans l'eau et rentra boire à la maison. Le vieux lui demanda « Où sont les poissons ?»«
Je les ai rejetés à l'eau, la sauve m'a pris et j'ai dû vite rentrer pour me désaltarer. »
Le vieux se fâcha « Mais et tu ne pouvais pas boire à la mare ?»«
Tiens, je n'y ai pas pensé. »
Pendant ce temps, le second idiot avait tressé un tas de cordes et se préparait à rentrer. Il s'aperçut qu'il n'avait pas de cordes pour les attacher. Alors il courut en chercher une à la maison. Et le vieil homme se fâcha encore. « Et pourquoi n'as-tu pas attaché ton tas avec l'une des cordes ?»«
Tiens, je n'y ai pas pensé. »
Le troisième idiot grimpa sur un cocotier et montra les noix de coco à son bâton. « Tu vois ces noix de coco ? Tu vas les jeter par terre, ces noix, compris ?» Il descendit et il commença à lancer le bâton sur le cocotier. Mais... avec cette méthode, il ne fit tomber aucune noix. Lui aussi rentra à la maison bredouille, et une fois de plus, le vieux se fâcha.
« Et puisque tu étais sur le cocotier, pourquoi n'as-tu pas cueilli les noix à la main ?»«
Tiens, je n'y ai pas pensé. » Le vieux comprit qu'il n'arriverait à rien avec ses trois sceaux. Il leur donna ses trois filles pour femmes et les chassa tous. Les idiots et leurs femmes construisirent plus ou moins bien une cabane et vécurent tant bien que mal. Ils eurent des enfants. Beaucoup d'enfants, aussi bêtes qu'eux. Alors les cabanes se multiplièrent et les idiots se répandirent à la surface du monde entier. Il était une fois un homme qui possédait un cheval remarquable. Il le montait pour aller à la chasse et à la guerre, arrivant chaque fois avant les autres. Jour et nuit, son cheval était toujours dispo. Jamais il ne trébuchait, jamais il ne se blessait. Et pourtant, l'homme n'en prenait aucun soin. Il ne le bouchonnait pas, ne l'étriait pas, ne le baignait pas. Il ne lui donnait ni avoine, ni eau. Chaque fois qu'il voulait le monter, il jetait une selle sur son dos et le bridait. Puis il sautait en selle, s'élançait au galop. Arrivé à destination, il se contentait de le débarrasser de la bride et de la selle et le laisser chercher seul sa pitance. Il faisait toujours ainsi. Un jour, la guerre éclata. L'homme prit son cheval et s'en alla au combat avec les autres. Il se battit avec bravoure, mais les ennemis, trop nombreux, l'obligèrent à se replier avec les siens. L'homme comptait sur son cheval. Il se mit à l'éperonner, à le cravacher. Hélas, son cheval... malade, amaigri et affaibli par les mauvais traitements, s'épuisa en un rien de temps. Les ennemis encerclèrent notre homme et le firent prisonnier. Le cheval reçut un nouveau maître. L'homme fut vendu comme esclave. Un riche seigneur l'acheta, celui précisément qui avait acheté son cheval. Le riche possédait tout un troupeau de magnifiques chevaux. Chaque cheval était confié à un esclave qui devait en prendre soin. Ainsi, on confia à notre homme le cheval qui avait été le sien. Il devait l'étrier, le baigner, lui donner de l'avoine et de l'eau. En somme, il devait s'en occuper, jamais comme auparavant. Et s'il avait négligé le moindre détail, son riche maître l'aurait sévèrement puni. Le cheval se portait bien. Il était propre, il grossissait et finit par retrouver toute sa vigueur. Un jour, lorsque son ancien maître... vint lui remplir son auge d'avoine. Le cheval hennit et dit « Mon maître, voudrais-tu retrouver ta liberté ?» Interloqué, l'esclave ne put prononcer un mot. Et le cheval poursuivit. « Saute sur mon dos, attrape ma crinière et tu verras. » L'esclave lui obéit. Il l'enfourcha, attrapa sa crinière. Le cheval s'élança. Il eut bientôt une nuée de cavaliers à ses trousses. Mais aucun ne réussit à l'attraper. L'homme rentra chez lui, sain et sauf, retrouvant avec joie sa femme et ses enfants. Lorsqu'il sauta à terre devant sa maison, le cheval lui dit « Mon maître, si tu avais toujours pris soin de moi comme tu l'as fait pendant ton esclavage, tu ne serais jamais devenu esclave. » C'est ainsi que l'homme apprit à s'occuper de son cheval. Le coq et l'épervier. Jadis, le coq et l'épervier étaient de grands amis. Ils se rendaient visite, se promenaient ensemble et se montraient très prévenants l'un envers l'autre. Un jour, le coq vint voir l'épervier, qui était justement en train de se raser avec un rasoir sans manche. Le coq dit « J'ai besoin de me raser moi aussi, mais je n'ai pas de rasoir. Qu'à cela ne tienne, je te prête mon rasoir sans manche », proposa aimablement l'épervier, mais fais attention à ne pas le perdre. Le coq prit le rasoir et l'emporta chez lui. Quand il eut fini de se raser, il le laissa traîner dans le poulailler. Les poussins ne tardèrent pas à le trouver. Ils jouèrent avec un moment et puis ils l'enterrèrent. Le lendemain, l'épervier vint chercher son rasoir sans manche. Mais personne ne savait où il était passé. Le coq s'excusait. Nos poussins ont dû l'enterrer à tant un moment. Leur mère, la poule, va le trouver. La poule se mit à gratter la terre et l'épervier à attendre longtemps. À bout de patience, il finit par se fâcher. « Puisque ce sont vos poussins qui ont perdu mon rasoir sans manche, je reviendrai tous les jours vous prendre un de vos petits tant que vous ne m'aurez pas rendu ce qui m'appartient. » Sur ce, il emporta tout de suite un poussin. Depuis ce temps, l'épervier revient tous les jours chercher un poussin et la poule gratte, gratte, gratte partout la terre sans pour autant trouver le rasoir sans manche. La tortue paresseuse et le singe plus fainéant encore.
La tortue et le singe grelottaient de froid au pied d'un arbre. La nuit était glaciale. Et en plus, il pleuvait. J'ai trop froid, se plaignit la tortue. Dès demain, nous abattrons cet arbre pour nous confectionner dans son écorce des manteaux bien chauds qui nous protégeront du mauvais temps. Oui, d'accord, dès demain, acquiesça le singe. Or, le lendemain matin, le ciel se dégagea. La tortue et le singe passèrent la journée à se prélasser, à se chauffer au soleil. Paresseuse, la tortue estima « Il me semble que ce n'est pas aujourd'hui que nous allons confectionner nos manteaux puisqu'il fait si beau. » Puis le soir vint, le soleil se coucha et une pluie froide se mit à tomber. La tortue et le singe, transis de froid, recommencèrent à se plaindre au pied de l'arbre. Oh, « Il fait vraiment trop froid. Dès demain, nous abattrons cet arbre pour nous confectionner des manteaux chauds dans son écorce. Ah oui, d'accord, dès demain. » Or, le lendemain matin, le ciel se dégagea. La tortue et le singe passèrent la journée à se prélasser, à se chauffer au soleil. Une histoire sans fin. Mais l'émission, elle est bel et bien finie. J'en ai l'impression, puisque voilà le générique. Donc, je vous dis merci d'avoir écouté. Je vous dis au revoir. C'était Marco, compte à rebours. Je vous dis à la semaine prochaine.